Inter, actualité.
Le 4 juillet 1961, ça s'est terminé comme ça.
Vous le savez déjà si vous étiez à l'écoute de nos Inter dernière heure ce matin, c'est ce matin seulement qu'on a appris la mort de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline.
Pourquoi la journaliste dit-elle ce matin seulement ?
Ce matin seulement, car une véritable conspiration du silence s'était faite autour de cette mort, survenue dimanche à Meudon, dans le pavillon où Céline vivait depuis de nombreuses années. Nous avons appris la nouvelle au moment même où avait lieu l'enterrement dans le cimetière de Meudon.
En réalité, amen. Il est fort probable que les journalistes français ont dû savoir 3 jours plus tôt que Louis-Ferdinand Céline était mort. Mais par prudence ou par décence, ils ont d'abord gardé le silence et attendu le jour des obsèques de Céline pour diffuser sa nécrologie.
C'est à 38 ans qu'il devint brusquement célèbre avec son premier livre paru chez De Noël en 1932, Le voyage au bout de la nuit. Et il faut bien dire que ce voyage au bout de la nuit était une sorte de chef-d'œuvre. On se souvient de cette écriture verte et drue, de cet argot, de cet emploi du langage parlé qui paraissait alors à peu près tout neuf. Il s'agit, on s'en souvient, du voyage en Amérique d'un héros truculent et verbeux, indigné d'ailleurs contre la civilisation, si l'on peut dire, matérielle du XXe siècle.
Louis-Ferdinand Céline, écrivain français, vedette de l'entre-deux-guerres.
En 1936, paraissait mort à crédit, avec le même succès, mais je crois que l'on peut dire qu'à mesure que la haine l'emporte chez lui, le talent diminue, et que déjà, Bagatelle pour un massacre avait beaucoup moins de talent. Bagatelle pour un massacre qui était si violent, on se souvient qu'il s'agissait tout simplement du massacre des Juifs.
Les obsessions antisémites de Céline furent inouïes. Au point que 15 ans après la Seconde Guerre mondiale, sa mort était devenue un sujet sensible. Cela dit, enterrer Louis-Ferdinand Céline fut aussi un soulagement.
Pour conclure, disons que si l'on réprouve violemment l'action de Louis-Ferdinand Céline, on ne peut nier que ce violent a ajouté quelque chose à la littérature française et qu'à son heure, il a joué le rôle d'un précurseur.
Un précurseur, sans aucun doute, et un immense écrivain. Mais Céline fut aussi une fausse victime, une âme pathétique au service des passions tristes, un homme plus que gênant, un esprit venimeux.
J'étais dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominié de tous les côtés pour des gens qui n'en valent pas la peine. Je trouve que tous les autres sont coupables, pas moi. Voilà comment je pense.
En août 2021, 60 ans après sa mort donc, le spectre de Louis-Ferdinand Céline a ressurgi des décombres.
60 ans après la mort de l'écrivain, plusieurs romans pourraient être bientôt publiés car des milliers de pages de manuscrits viennent de refaire surface.
6000 manuscrits inédits, dont 3 romans, ont refait surface. Plus de 75 ans après leur mystérieuse disparition à Paris, en août 1944. C'est sûrement l'une des découvertes les plus extraordinaires de l'histoire de la littérature en Europe. Si quelques zones d'ombre subsistent quant au chemin emprunté par ces manuscrits inédits pour arriver jusqu'à nous, le véritable sujet est ailleurs.
Alors, après Guerre, qui était un succès incroyable, deuxième volume des inédits de Céline, là c'est Londres qui paraît chez Gallimard.
Depuis le retour de Louis-Ferdinand Céline en librairie, en mai 2022.
Est-ce que vous avez aimé Londres, Arnaud ?
Le succès des ventes est immense et nous confronte à une interrogation. Quelle place occupe le sulfureux écrivain dans notre mémoire collective ? Styliste de génie et esprit fracassé par les atrocités de la Première Guerre mondiale, Louis Destouches, alias Céline, n'en demeure pas moins un antisémite virulent et radical, raciste et pro-nazi patenté, qui a œuvré à la faillite morale et politique du régime de Vichy.
Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich.
Céline, à lui tout seul, pose la question de la responsabilité de l'écrivain dans la société. Existe-t-il deux Céline ? l'homme de lettres et l'homme de la cité? Les deux sont-ils dissociables?
Alors, est-ce qu'on peut être en effet un pauvre type et un grand écrivain à la fois?
On aborde régulièrement Louis-Ferdinand Céline sous l'angle de la littérature. Eh bien, dans cette nouvelle série documentaire, nous allons procéder un peu différemment et soumettre son destin au regard des historiens. À travers les nombreuses archives à notre disposition et appuyées par les meilleurs spécialistes, il s'agit de replacer Louis Destouches dans le contexte de son époque, afin d'essayer de comprendre ce qu'il incarne dans la société française d'hier et d'aujourd'hui. À nouveau, faisons de l'histoire.
Louis-Ferdinand Céline, vous êtes un drôle de personnage. Vous excitez les passions par vos œuvres, par vos idées, par vos attitudes. Vous dites souvent qu'on vous comprend mal. Ça serait l'occasion de vous faire mieux comprendre.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour. Premier épisode, Le fils unique.
Ça a débuté comme ça.
Est-ce qu'on peut aimer un écrivain en oubliant quel homme il a été un moment et en oubliant certains de ses livres?
C'est une discussion très profonde parce qu'elle porte sur la morale.
Un génie a des excuses, toujours.
Le plus grand écrivain du monde.
Je crois trop à l'influence de la littérature pour publier un salaud.
C'est Louis-Ferdinand Céline.
Ce qu'il a pu faire dans la vie, ça m'est égal. Il a trop de génie pour que je m'en occupe.
On est emporté par le littérateur et on est consterné par la bassesse du bonhomme.
Le récit débute en décembre 2023 sur le parking d'une gare dans le Berry. Martine Abbat, notre reporter, avait rendez-vous avec Jean-Pierre Thibaudat, ancien journaliste du quotidien Libération. Et il est venu chercher Martine Abbat en voiture.
La petite grise, là ?
La petite grise.
La Renault 5, ça se fait encore, ça ? C'est une Renault 5 Saga.
Voilà.
Je pensais pas que ça existait encore.
Après quelques kilomètres en Renault 5, ils empruntent une petite route de campagne, puis s'arrêtent devant un portail en bois.
Oui, c'est une longère.
Voilà, c'est une longère avec une petite prolongation.
C'est une belle maison en pierre, en tout cas.
C'est un ancien corps de ferme, en pierre de Bourgogne, avec des volets rouges. C'est la maison de villégiature de Jean-Pierre Thibaudat.
Alors, on a tout refait, c'était terre battue hein, quand on est arrivé ici.
Ah oui, d'accord.
Alors, pourquoi commencer cette série dans cette longère du Berry?
Vous voulez qu'on s'assoie alors, au bureau, là-bas?
Où vous voulez.
L'histoire est hallucinante. Le 17 juin 1944, Louis-Ferdinand Céline quitte précipitamment Paris devant l'arrivée des Alliés. On y reviendra plus tard. Et il laisse derrière lui des milliers de manuscrits dans une caisse en bois. Récupérés en août 1944 par Yvon Moranda, grand résistant de la France libre.
Honneur et patrie.
Et au printemps 1982, soit 40 ans plus tard, la fille d'Yvon Moranda, Caroline, entre en contact par l'intermédiaire d'un ami commun avec Jean-Pierre Thibaudat.
Et donc, je rencontre Caroline et son mari.
Moranda.
Il y a la caisse qui est là.
Elle est comment, cette caisse?
Une grosse caisse comme ça, une caisse en bois ordinaire. Hein,
longue, un mètre de long.
60 de large à peu près, vous voyez, assez, 50 assez, de haut à peu près, voilà.
Comme une grosse cantine un peu.
Oui, en bois, truc en bois, tout simple, comme ça. Avec dedans, effectivement, des tas de choses un peu dans tous les sens, quoi. Et on se revoit plusieurs fois comme ça, jusqu'à ce qu'ils prennent la décision de me donner tout ça. À une seule condition, c'est que jamais donner ça à la famille Céline. Pour eux, c'était quand même des gens épouvantables, des gens antisémites, que ce soit Lucette ou que ce soit Céline.
Lucette, la veuve.
La veuve de Céline et tout, qui était vivante. Et donc, je me retrouve avec tout ça.
Quand vous dites qu'ils vous font promettre de ne jamais en parler à Lucette Destouches,
Vous êtes d'accord tout de suite ?
Oui, oui, parce que je suis d'accord idéologiquement avec eux. Par exemple, mes parents, qui étaient des anciens résistants aussi, c'est un point commun avec Miranda. Il n'y a jamais eu un livre de Céline à la maison. Pour eux, c'était quelqu'un qu'il ne fallait pas lire, qui était trop venimeux, vous voyez. Ils avaient raison d'un côté, ils avaient tort de l'autre, puisque par ailleurs, c'est aussi, c'est ça le paradoxe toujours de Céline, c'est aussi un grand écrivain. Et quand on lit Le Voyage, quand on lit Mort à Crédit, on ne peut pas dénier la qualité formidable de ses livres. En même temps, c'était un ignoble personnage, qui pactisait avec les Allemands, qui a écrit des trucs sur l'antisémitisme comme... De façon inimaginable, sur les Juifs et tout. Il y a certains livres qui sont abjects de lui.
Caroline Miranda, ne sachant pas trop que faire de cette caisse en bois, a confié les archives inédites de Céline à un autre fils de résistant, Jean-Pierre Thibaudat, qui les a transportées chez lui, dans le Berry.
C'était là, dans cette pièce.
Dans l'ancienne étable.
Dans l'ancienne étable, devenue la bibliothèque et la pièce où j'aime bien travailler.
Et c'est une pièce assez sombre.
Très sombre, comme toutes les étables. Il n'y a qu'une toute petite fenêtre et puis une porte qui donne sur l'extérieur. Et donc, c'est comme un cocon, quoi. C'est comme un endroit secret, un peu. Voilà. Pour travailler, c'est très agréable parce qu'on est très concentré.
C'est donc dans cette maison berrichonne que Thibaudat a conservé et commencé à décrypter dans le plus grand secret pendant 40 ans les manuscrits inédits de Céline. Et dans cette caisse en bois, il y avait entre autres plusieurs brouillons ou disons des premiers jets de romans inédits de Céline.
Londres, on ne connaissait pas. Guerre, on ne connaissait pas. On ne savait même pas que ça existait. Donc c'est assez bouleversant. Moi, tout seul dans mon coin ici, avoir ça en disant c'est des choses incroyables, quoi.
Et alors là...
Mais il faut garder son calme. Faut garder son calme et faut garder le secret. Faut garder le secret.
C'est dur, ça ?
Non, c'est très facile. Il suffit de pas en parler. Et j'en parlais pas.
Jean-Pierre Thibaudat s'est tu pendant plusieurs décennies. Il s'est tu. Mais dans sa maison du Berry, tous les étés, il a travaillé sans cesse à déchiffrer les manuscrits de l'écrivain maudit.
Pour moi, ce qui a été la chose la plus belle, c'est le moment du décryptage. Décrypter une écriture qui est souvent difficile à décrypter. Il y a une sorte d'exaltation, de plaisir comme ça, secret, de décrypter des choses qui n'ont jamais été lus par personne. C'est quelque chose d'étonnant, d'exaltant, et en même temps de faire ça dans le secret, vous voyez. Et ça, ça a été des moments, des nuits, ça se passait la nuit. Et alors c'était très beau parce que j'étais là, et puis je voyais la nuit,
à travers la
porte-fenêtre. Il y avait ces feuilles qui étaient là, l'ordinateur qui était allumé, et ces feuilles... une petite lumière et tout, et je décryptais des choses que personne n'avait jamais lues avant moi.
Pour moi qui n'ai jamais vu un manuscrit de Céline,
ouais.
Qu'est-ce qui est si difficile dans son écriture ? Il écrit petit.
Ouais, je vais vous montrer parce que j'ai... Alors, vous voyez par exemple là, ça c'est des facsimilés hein,
de Gallimard.
De chez Gallimard, oui. Bon, vous voyez ça, ça va, il y a des pages comme ça. Déjà, vous arrivez là, c'est déjà plus difficile.
Il y a des abréviations. Voilà.
Oui, il y a des noms. Très souvent, il ne met pas les mots en entier.
Ah oui,
vous voyez ?
Parce qu'il se comprend.
Oui, il se comprend, voilà. Ah oui. Regardez ça.
Ça, c'est
vous voyez, j'ouvre au hasard. Vous voyez ?
Oui, c'est-à-dire, il réécrit là où il a déjà écrit.
Il rajoute, il fait des rajouts en marge.
Flèches,
vous voyez,
il fait des flèches.
Il fait des flèches, il fait... Ouais,
Non,
Là, ça va.
Tu m'accueilleras pas.
Non, tu m'enculeras.
Ah, pardon.
J'ai ouvert au hasard, excuse-moi.
Oui, décrypter Céline réserve toujours des surprises. Revenons au pacte de Jean-Pierre Thibaudat. Ce pacte, passé en 1982 avec la famille Miranda. Il fallait garder le secret de ses archives tant que la veuve de Louis-Ferdinand Céline était en vie. Alors, que s'est-il passé ?
Elle a passé sa vie avec l'un des écrivains français les plus grands et les plus controversés. En même temps, la veuve de Céline est morte la nuit dernière, Lucette Destouches, 107 ans.
Lucette Destouches meurt. Donc, dans un sens, j'étais délivré.
Du secret, de
la promesse en tout cas, faite à la famille Moranda de ne pas donner ça à la famille Céline. Donc j'avais respecté le contrat.
Elle meurt en novembre 2019.
Voilà. Et donc, je me dis, mais tout ça ne m'appartient pas. Appartient à la littérature française. Ces manuscrits, il faut les rendre publics. Donc, j'appelle Caroline Moranda, que j'avais pas revu depuis 82. Je dis à Caroline, écoutez, je pense que tôt ou tard, ça va se savoir. Et que donc, ils vont prendre les devants, il faut le dire, l'affirmer, ne serait-ce que par respect pour la mémoire de votre père. Et elle me dit, dites-le. Et donc, je suis délivré du secret, et les choses se terminent d'une certaine façon.
Lucette Destouches, la veuve, est morte à l'âge de 107 ans, en 2019. C'est ainsi qu'en 2021, Jean-Pierre Thibaudat a pu faire ressurgir du passé ces manuscrits inédits de Céline, que tout le monde recherchait depuis 75 ans. Les héritiers étaient furieux, on y reviendra là aussi. Pour Thibaudat, ce fut donc la fin d'une folle histoire. Pour nous, il s'agit maintenant de remonter le fil et de tout reprendre depuis le début. Qui es-tu, Louis-Ferdinand Céline ?
L'œuvre de Louis-Ferdinand Céline prend l'une des premières places dans la littérature du XXe siècle. Avec Proust, il est le second grand écrivain français à avoir répudié complètement l'emploi d'un langage innocent.
Louis Destouches, alias Céline, est né à Courbevoie, en proche banlieue parisienne, le 27 mai 1894. Gamin, il a grandi dans le passage Choiseul, une ruelle marchande couverte au cœur de Paris, dans le 2e arrondissement. Et c'est là, passage Choiseul, que le journaliste Michel Pollack est allé faire traîner ses micros en 1969.
Vous avez déjà entendu parler de Céline ?
Oui.
Il habitait dans le coin, hein ?
Oui, là, trois boutiques après nous, là.
Ouais.
Le fils de Mme Destouches.
Ah oui ?
Bah oui, c'est Céline.
Son père travaillait, il était comptable.
Oh oui, il était dans une compagnie d'assurance.
Il était
ouais.
Au Phoenix.
Au Phoenix, ah, j'aurais Phoenix. pas pu dire la compagnie de l'assurance, mais enfin,
si,
je savais.
C'était votre assureur, oui.
Alors, commençons par le père. Qui était Ferdinand Destouches ? Le paternel de Céline.
Ferdinand Destouches, il est né donc en 1865 et il reçoit une instruction conséquente.
L'historien Jean Roulman.
Il va bénéficier d'une bourse communale, il va rentrer au lycée, au Havre d'abord, au lycée Condorcet à Paris ensuite. Et ça, c'est sans doute lié au métier de son père, qui était professeur. En tout cas, il a un parcours un peu chaotique, apparemment, puisque il est vraiment aux antipodes de son propre père et de la réussite de son frère Georges. Il va être d'abord correspondancier au service incendie d'une compagnie d'assurance. Et puis, tiens, c'est ce que fera son fils un peu plus tard, il s'engage brutalement pour 5 ans dans l'artillerie. Comme il n'y trouve manifestement pas sa voie, à ce moment-là, il revient dans les assurances comme rédacteur. Et puis, il va terminer en 1923, au moment de sa retraite, comme sous-chef de bureau dans les assurances.
Entrez !
Et votre père ?
Mon père était correspondancier, parce qu'il était licencié Slet, mon père.
Louis-Ferdinand Céline, 1959.
C'était un homme lettré. Et il faisait la correspondance au service d'incendie du Phoenix, rue Lafayette.
Affaire Cronier, avril 1904. Vous passez aux archives, je vais le dossier complet sur mon bureau avant ce soir.
Le père de Céline, je dirais un petit bourgeois rêveur.
Frédéric Vitou, académicien et biographe de Céline.
C'est un rêveur, en particulier les rêveries sur la mer. Le père aurait voulu toujours être officier de marine, donc c'était son grand rêve. Voilà, donc c'était le côté à la fois petite bourgeoisie, médiocre et rêveuse, je dirais.
Vous dites rêveur, Frédéric Vitou, mais sous la plume de Céline, notamment dans Mort à crédit, il fait de son père un raté.
On est toujours un raté par rapport au rêve que l'on a. Pratiquement, c'était non un petit bourgeois qui a eu une activité professionnelle jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa retraite du moins. Non, ce n'est pas un raté. C'est un homme modeste, rêveur, sans doute insatisfait. C'est pas tout à fait la même chose.
Passons maintenant à la mère de Louis-Ferdinand Céline. Marguerite Guillou, épouse Destouches. Et pour commencer, retrouvons Michel Pollack, passage Choiseul.
Vous l'avez connue, Madame Destouches ?
Oh, bah, je comprends. Oh là là, oh, ouais. Oui, je comprends, je l'ai bien connue.
Mais est-ce que c'était vraiment des commerçants dans la misère qu'il a dit dans ses livres ?
Oh non, c'est une femme qui vendait des dentelles.
Ouais.
Des dentelles, des petits fonds de bonnet, des corsages en Irlande, des cols d'Irlande et tout
ouais.
ça.
Ouais.
Oh non, ça c'est pas... Elle avait son commerce et puis ouais. après elle l'a vendu, puis alors ils sont allés habiter rue Marcelier, là.
Ah ouais.
Marguerite Guillou est née en 1868 et en fait, elle a ce parcours assez typique de ces petits indépendants qui vont osciller pendant une partie de leur parcours professionnel entre l'indépendance et la rétrogradation au salariat modeste. On voit qu'elle gagne assez difficilement sa vie. On est vraiment dans le cas de ces petits commerces marginaux et instables. Elle est d'abord indépendante, elle tient un magasin de nouveautés à Courbevoie. Et puis c'est un échec, elle revend son fonds de commerce. Elle retourne au salariat. Elle va être demoiselle de magasin rue de Provence, et puis ensuite employée dans une chapellerie.
Là, parfait. Tout le monde ne peut pas le porter. Il demande du caractère. En même temps, on reste classique.
Et elle ressort du salariat grâce à un prêt de son frère de 1000 francs, ce qui n'est pas rien à l'époque, et la fourniture d'un stock de dentelles par sa propre mère, qui lui permettent d'acheter et de monter un petit commerce dans le passage Choiseul en 1899.
Élégance et tradition, bonjour.
Ma mère faisait de la mode et elle réparait des dentelles. Ça marchait pas très bien à Courbevoie, ce qui fait qu'il a fallu qu'elle ferme boutique. Alors elle est partie, elle est déplacée chez sa mère, comme demoiselle de magasin, en rue de Provence.
Marguerite Guillou, la mère de Céline, est donc elle d'origine bretonne. C'est une femme modeste, travailleuse, silencieuse. Le père est un rêveur, la mère est une femme modeste, douce, et qui appelle un chat, une dentelle, et la pauvreté, ou la relative pauvreté, ou la modestie des moyens, une évidence avec laquelle il faut tenir bon et élever bien son fils. Et en fait, quand on parle de la mère, il faudrait parler aussi surtout de la grand-mère, Céline, cette grand-mère maternelle, Céline Guillou, qui va inspirer à Céline son patronyme, Louis-Ferdinand Céline, et qui l'a beaucoup aimé.
Céline Guillou, la grand-mère maternelle de Céline, est née en 1847. Que sait-on d'autre sur elle ?
D'abord, on sait qu'elle avait un père qui était bimblotier. Alors, un bimblotier, c'est un marchand de jouets pour enfants. D'autre part, elle a commencé comme piqueuse de bottines. Et ensuite, elle s'est établie à son compte, au point d'avoir un magasin de brocante en dentelle, rue de Provence, qu'elle va garder pendant toute sa vie.
Vous avez une fière boutique. Pas mal, hein ?
On sait aussi qu'elle possède 3 pavillons en banlieue, qu'elle met en location. Donc elle perçoit de ce côté-là des loyers.
Donc un investissement.
Donc un petit capital. Et qu'elle est en mesure de fournir à sa fille un stock de dentelles pour qu'elle puisse lancer son petit commerce, passage Choiseul.
Louis-Ferdinand Céline, dans Mort à crédit, 1936. Grand-mère, elle se rendait bien compte que j'avais besoin de m'amuser, que c'était pas sain de rester toujours dans la boutique. D'entendre mon père, l'énergumène, beugler ses sottises, ça lui donnait mal au cœur.
Je ne veux plus que tu lui racontes d'histoire, tu m'entends ? Je ne veux plus. Oh, est-ce que tu es bête ? Bête ! J'ai jamais vu un homme aussi bête.
Elle s'est acheté un petit chien pour que je puisse un peu me distraire en attendant les clients. J'ai voulu lui faire comme mon père. Je lui foutais des vaches coups de pompe quand on était seul. Il partait gémir sous un meuble. Il se couchait pour demander pardon. Il faisait comme moi. exactement?
Je crois qu'elle joue un rôle décisif. Parce que, au fond, sa grand-mère va mourir quand il a 10 ans. Et chez sa grand-mère, c'était le contraire de son père qui disait n'importe quoi, qui rêvait.
Oh, est-ce que tu es bête? Bête! J'ai jamais vu un homme aussi bête.
Il avait le sentiment auprès de sa grand-mère qui représentait, au fond, un monde qui, pour lui, paraissait immobile, c'est-à-dire le monde idéal de l'avant-guerre de 14. Pour lui, la guerre de 14, ça va être l'écroulement, l'horreur. Et Céline, qui n'est pas un homme des lendemains qui chantent, c'est un homme des hier ou des avant-hier qui l'idéalise parce que avant sa naissance, c'était bien. La naissance, c'est le début de la mort et c'est l'horreur. Bon. Et donc, la grand-mère représente ce temps immobile et béni d'avant sa naissance. Ce monde immobile, consciencieux, où chacun était à sa place, où on ne se trompait pas, où on ne mentait pas. Elle savait reconnaître le faux du vrai dans la boutique qu'elle tenait. On ne pouvait pas la duper en lui faisant prendre une dentelle d'Alençon pour une dentelle de Bruges et un travail bâclé pour un travail bien fait. Et donc, sa grand-mère, il la comprenait et il l'aimait. Il y avait ce sentiment d'un passage de témoin d'une femme lucide, d'un monde idéal qui était le monde d'avant sa naissance. Et Céline, réinterprétant sans doute ce qu'il avait vu, a des pages sublimes de beauté qui montrent à quel point Céline était strictement un réactionnaire, c'est un homme en réaction avec la vie qui passe et en idéalisant un monde du passé qu'il n'avait pas connu.
Je suis le fils d'une réparatrice de dentelle ancienne. Et je suis peut-être un des rares hommes qui sait différencier la Baptiste de la Valencienne et la Valencienne du Bruges. Je connais très bien les finesses. Très, très bien.
Résumons. Les parents de Louis-Ferdinand Céline appartiennent à une petite bourgeoisie parisienne. La mère tient une boutique de dentelle.
Élégance et tradition, bonjour.
Et le père travaille dans les assurances.
Madame, monsieur, je vous déclare unis par les liens du mariage. Et maintenant, les anneaux, s'il vous plaît.
Ils se sont mariés en 1893. Marguerite Guillou avait 25 ans, son époux 28. Et pour l'historien Jean Roulman, ce n'est pas anodin.
C'est un mariage tardif, et ça c'est typique du malthusianisme démographique de la France en général, et de ses classes moyennes en particulier.
En effet, se marier à 25 et 28 ans en 1893, c'était tardif. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par malthusianisme ?
C'est le fait de limiter le nombre d'enfants par femme, avec deux mécanismes, enfin il y en a trois. Le premier, c'est la contraception, mais à l'époque, c'était un sport à risque, pour les hommes peut-être moins que pour les femmes. Le deuxième, c'est de se marier tardivement. Comme ça, eh bien, on a un cycle de fertilité qui est réduit d'autant. Et le troisième, c'est de tout faire pour n'avoir que le moins d'enfants possible, pour pouvoir investir le maximum sur le moins d'enfants possible. Donc, dans le cas de Louis-Ferdinand des Touches, fils unique, de parents mariés à 25 pour sa mère et 28 pour son père, on a vraiment un cas exemplaire de malthusianisme de la part de cette petite bourgeoisie. Oui.
Fils unique, Louis-Ferdinand Céline est l'enfant d'un couple typique de la classe moyenne de la Belle Époque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce groupe social ?
C'est un groupe assez nombreux. Je rappellerai quand même qu'à l'époque, la France, sur 87 départements, compte 40 millions d'habitants. La population active est de l'ordre de 20 millions de personnes. Sur ces 20 millions de personnes, vous avez à peu près, en 1896, 3,5 millions de petits patrons. Mais petits patrons, commerçants, industriels ou artisans. C'est un groupe qui n'a pas cessé de croître depuis la fin du 19e siècle. En 1906, donc quand Louis-Ferdinand des Touches a 10 ans, il y a à peu près 2 millions de personnes qui travaillent dans le secteur commercial. Sur ces 2 millions, plus de la moitié sont des patrons. Et la moitié de cette moitié, ce sont des isolés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'employés. Donc, en gros, à la Belle Époque, fin 19e, début 20e, vous avez à peu près 1 million de petits commerçants. Et là-dessus, 400 000 limonadiers, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans les débits de boissons, c'est vous dire. Donc c'est un groupe assez nombreux. C'est une catégorie qui peut se revendiquer du peuple, parce que comme dirait Victor Hugo, comme le peuple, il travaille et il souffre. On n'est pas dans la misère, mais on est dans la gêne. Et on a une qualification professionnelle ou scolaire via un diplôme. Enfin, je dirais que cette classe moyenne, c'est ce qui lui vaut d'ailleurs le terme de petite bourgeoisie, calque souvent son style de vie sur celui de la bourgeoisie. Je rappelle qu'à cette époque, il y a des gens qui se saignent pour avoir un domestique à la maison. Il y a 1 million de domestiques à la belle époque en France qui travaillent, et ils ne travaillent pas juste pour les classes supérieures. Vous avez des gens qui sont capables de faire de grands sacrifices, ne serait-ce que pour avoir un domestique dans leur logis.
Marcel Brochard, ami d'enfance de Céline, 1969.
Le père des Touches était un brave fonctionnaire, brave bonhomme, brave rentier, et ils avaient une petite maison au bord de la Seine, à Ablon, une petite maison d'été, où on allait se promener le dimanche.
Je continue la promenade jusqu'au bout.
Et la maison a été rasée par les inondations de 1910.
Voyons maintenant quelles étaient les aspirations de cette classe moyenne parisienne.
C'est d'abord un vif désir de promotion sociale. Il s'agit de s'élever. Alors, s'élever dans son propre parcours et ou s'élever d'une génération sur l'autre. Et pour ça, il y a une stratégie. D'abord, faire un bon mariage. Ensuite, s'établir à son compte. On a vu que pour Marguerite Guilloux, c'était décisif. Enfin, si on parle d'une génération sur l'autre, il s'agira de donner une instruction solide à ses enfants. Et le corollaire, c'est repousser, hein, ça c'est une aspiration à repousser le déclin sous diverses formes. Ça c'est une constante chez les classes moyennes, le déclassement, c'est être rétrogradé de l'indépendance au salariat, comme employé ou comme ouvrier. On a vu que dans le cas de Marguerite, la mère de l'écrivain, c'est une perspective tangible. La deuxième écueil, c'est la faillite. Alors là, la faillite, c'est vraiment le comble du déclassement.
Moi, faire faillite ?
Faire faillite, c'était l'angoisse des parents de Louis-Ferdinand Céline.
J'en mourrai.
Par ailleurs, que sait-on des orientations politiques de cette classe moyenne à la fin du 19e siècle ?
On peut dire que, dans son ensemble, la classe moyenne se situe politiquement plutôt, à cette époque-là, dans l'orbite républicaine. Et elle se retrouve beaucoup dans le radicalisme qui est, à l'époque, défini par son dreyfusisme.
Dreyfusisme, autrement dit favorable à Alfred Dreyfus.
Je le jure, je suis innocent.
Et les scrutins, les victoires successives du Parti radical en 1902, en 1906, qui sont de véritables triomphes électoraux, montrent ce soutien. Ça résulte d'une tendance séculaire, au cours de laquelle la petite bourgeoisie a trouvé dans les forces politiques qui se réclamaient de la Révolution française un peu l'expression de ses aspirations. D'abord, l'établissement d'une école primaire, primaire supérieure, gratuite, obligatoire, qui permet la promotion des talents d'une génération sur l'autre. L'attachement au suffrage universel, la laïcité, les libertés publiques, ce sont les valeurs de ces couches nouvelles que Gambetta va drainer vers la Troisième République. Mais au sein de ces classes moyennes, vous avez, à la fin du XIXe siècle, selon Nona Mayer, une évolution, une inflexion. Pas un basculement, mais quand même une évolution chez les boutiquiers, et notamment chez les boutiquiers parisiens, un glissement progressif vers la droite. Dans le Paris de la fin des années 1880, au moment de l'épisode boulangiste, par exemple...
Debout, messieurs, le général Boulanger.
La Ligue syndicale pour la défense des intérêts du travail, du commerce et de l'industrie soutient Boulanger. Durant l'affaire Dreyfus, on est donc à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, Philippe North note que la majorité des organisations du commerce dans les villes refuse la révision des procès Dreyfus.
Si vous êtes un traître, il suffit que vous soyez juif et vous n'aurez plus rien à craindre. Démasqué par la science, condamné par la justice, vous aurez le droit à un deuxième procès.
Et c'est, selon Nona Mayer, le signe que ce basculement qui va conduire le monde des boutiquiers vers le poujadisme au siècle suivant, ce basculement est en train de s'opérer. Mais il n'est pas totalement abouti.
Est-ce qu'on peut dire que Ferdinand Destouches, le père de l'écrivain, Louis-Ferdinand Céline, est-ce qu'il correspond à ce basculement ?
Oui, c'est vrai que de la même manière que la famille Guillou Destouches est un assez bon reflet de la petite bourgeoisie des classes moyennes à la fin du 19e au début du 20e, les positions politiques de Ferdinand Destouches sont un peu emblématiques de ce basculement qui est en train de se faire.
Ce basculement de Ferdinand Destouches, le père, est accentué par une grande dépression économique qui le conduit vers l'antisémitisme. À la fin du 19e siècle, comment se caractérise cet antisémitisme chez une partie des boutiquiers parisiens ?
Alors, là, on rentre dans la période de la coagulation des antisémitismes où, au moment de l'affaire Dreyfus, confluent trois grands antisémitismes. L'antisémitisme religieux, qui est porté par les congrégations comme les assomptionnistes, leur presse comme la Croix, contre le peuple déicide.
Dis, papa, pourquoi est-ce que tout le monde déteste les Juifs ? Parce qu'ils ont tué le Christ.
Ça joue peut-être dans la branche maternelle de Céline, puisque les Guillou sont bretons, ils sont catholiques, donc il y a peut-être cette trace d'antisémitisme religieux. Vous avez l'antisémitisme anticapitaliste, où là on s'en prend à la haute banque juive, au Rothschild, mais pas seulement, on s'en prend à la haute bourgeoisie industrielle juive, les Schneider, ou encore dans le commerce aux ruelles du bazar de l'Hôtel de Ville. Vous avez enfin l'antisémitisme pseudo-scientifique, qui va être recyclé par Drummond, avec son best-seller La France juive.
L'œuvre juive, c'est le drapeau rouler dans la boue. C'est la France humiliée et divisée.
Drummond est brillant.
L'œuvre juive.
Vous avez lu La France juive ?
C'est le patriote qu'on assassine et le traître qu'on libère.
Quant à l'antisémitisme de Ferdinand Destouches, moi, je trouve qu'il est plutôt lié à la concurrence que les commerçants juifs font subir à l'activité de sa famille et de sa femme. C'est plutôt ça, mais il n'est pas exclu qu'en raison de son instruction, il ait pu accéder à des lectures pseudo-scientifiques, les traités de Vacher de la Pouge, de Gobineau, ou encore à leur vulgarisation dans la presse antisémite.
Louis Ferdinand Céline, dans Mort à Crédit, 1936. Mon père, il se causait tout seul. Il s'en allait en monologue. Il vituperait. Il n'arrêtait pas. Tout le Bataclan des maléfices. Le destin. Les Juifs. La poisse. L'exposition. La Providence. Les francs-maçons.
Tout ça, c'est les vendus. C'est pour ça que tout va mal. C'est pas pour autre chose.
L'antisémitisme de Ferdinand Destouches, c'est donc l'antisémitisme d'une petite bourgeoisie aigrie qui n'a pas réussi autant qu'elle le souhaitait et qui a besoin d'un bouc émissaire pour justifier ses déceptions.
Donc il se nourrit de toute l'idéologie qui est véhiculée à l'époque, Édouard Drummond, la libre parole, tout ça le nourrit dans ce confort du bouc émissaire pour expliquer ses propres échecs.
Frédéric Vitoux, académicien, et biographe de Céline.
C'est assez banal, hein, dans la France de la fin du 19e siècle. Et alors, il n'est évident que pour le futur Céline, à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, avoir un père qui ronchonne toujours ses imprécations antisémites ou qui lit les journaux un peu de la droite raciste et antisémite, ça a dû l'influencer. Mais il y a d'autres raisons, bien sûr.
Tiens, hier soir, il paraît qu'on a tapé sur des métèques à Montparnasse. Ça, au moins, c'est quelque chose. Bientôt dans le coin, j'en connais d'autres qui vont y passer.
Retournons passage Choiseul, dans le deuxième arrondissement de Paris. Au milieu de cette famille de la classe moyenne, à quoi ressemble l'enfance de Louis-Ferdinand Céline ? D'abord, voici ses souvenirs à lui, au micro de Louis Powells, en 1959.
À cette époque-là, vous étiez un enfant très doux, très affectueux ou...
J'avais pas beaucoup de chance d'être doux et affectueux. J'étais élevé dans les gifs, parce que c'était comme ça à cette époque-là. On élevait des gifs, et puis tais-toi, tu es un voyou, etc.
On a fondamentalement de Céline l'image qu'il nous donne dans Mort à crédit. C'est-à-dire une enfance plutôt triste, avec des parents forcenés, un père qui hurle, une mère dans le bord de la misère et un enfant mal aimé. Dans ce passage Choiseul qui décrit comme une sorte de cloche à gaz où on étouffe, où c'est absolument l'horreur absolue.
Louis Ferdinand Céline, dans Mort à crédit, 1936. Il faut avouer que le passage, c'est pas croyable comme croupissure. C'est fait pour qu'on crève, lentement, mais à coup sûr. Entre l'urine des petits kleps, la crotte, les glaviots, le gaz qui fuit, c'est plus infect qu'un dedans de prison. Sous le vitrail, en bas, le soleil arrive, si moche qu'on l'éclipse avec une bougie. Tout le monde s'est mis à suffoquer. Le passage devenait conscient de son ignoble asphyxie.
C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et ça, on le mesure mieux maintenant. Parce que depuis quoi, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, le grand apport de la connaissance célinienne a été celle de la correspondance. On connaissait des lettres de Céline, mais toutes les lettres de l'enfance, tout ce qui avait été gardé par Lucette Destouches, découvre totalement dans la correspondance échangée par Céline et ses parents un autre univers. Une famille aimante, qui s'occupe beaucoup du fils.
Marcel Brochard, 1969.
Et pour que le jeune Louis fasse du sport, on lui avait acheté une barque et des rames à 14 ou 15 ans, avant qu'il ne parte pour l'Allemagne et pour l'Angleterre et pour tous ses voyages.
Le fils qui est plutôt reconnaissant, qui écrit des lettres très tendres, très affectueuses à ses parents. Et là, on n'a pas du tout cette image atroce d'une enfance tragique par l'incompréhension entre les parents et le fils. Une enfance d'un garçon malmené, parfois blessé inutilement. On a une enfance, disons, d'un petit garçon de classe très modeste, mais aimé par ses parents qui font tout pour que leur fils réussisse. Alors évidemment, réussir pour les parents, ça aurait été que leur fils soit chef des ventes dans un grand magasin, si vous voulez. C'était ça la réussite suprême, évidemment pas d'écrivain.
Vos parents vous destinaient à quel métier ?
L'ambition de ma mère, c'était de faire de moi un acheteur des grands magasins. Il n'y avait pas plus haut dans son esprit. Et quant à mon père, il ne voulait pas que je fasse des études parce qu'il trouvait que c'était la misère. Il le voyait parce qu'il en était dedans.
Je pense qu'il y a beaucoup d'affabulation dans ce que Céline écrit. Et surtout, il y a la construction de la figure du génie. Il est important pour lui de montrer qu'il est un génie ex nihilo, qu'il ne doit rien à personne, pas plus à son grand-père qui était professeur agrégé de lycée qu'à son père qui a quand même été au lycée. Et donc, c'est comme beaucoup d'écrivains, des gens qui sont au mieux autocentrés, au pire mégalomanes. Et chez Céline, très franchement, il y a des affabulations, des exagérations dans tous les sens. Il est très difficile de prendre ce qu'il dit pour argent comptant. Et là, franchement, se montrer génie de la littérature venu de nulle part, c'est tellement gratifiant qu'il ne résiste pas à ce plaisir.
Donc, ayez en tête que l'écrivain Céline, dans « Mort à crédit », par exemple, nous dépeint son enfance bien plus sombre qu'elle ne le fut réellement. Après tout, c'est son droit d'écrivain. Il a retranscrit un ressenti pour faire naître un récit. Et peut-être s'est-il vraiment senti miséreux enfant. Mais gardez à l'esprit qu'en réalité, l'enfance de Céline est parsemée de pratiques bourgeoises.
Alors, les pratiques bourgeoises auxquelles on peut faire allusion, c'est d'abord la mise en nourrice. Il y a une mise en nourrice aussi dans les ménages ouvriers. Dans le cas de Céline, il est mis en nourrice très précocement dans Lyon, du côté de Sens, je crois. Et puis ensuite à Puteaux. Les deux parents travaillent, les ascendants travaillent aussi. On ne peut pas s'occuper de ce bébé. La différence peut-être avec un bébé ouvrier, c'est le standing de la nourrice, hein, et les émoluments qu'on va lui verser. Le deuxième trait caractéristique, c'est la leçon de piano. Il faut savoir que du côté paternel, la tante Amélie s'était déjà montrée une pianiste très avertie. Elle avait eu des leçons de piano. Et Louis-Ferdinand Destouches, dès l'âge de 10 ans, je crois, va avoir des leçons de piano. Et on disait à l'époque qu'est bourgeois celui qui possède un bon piano dans son salon. Et je pense qu'on rentre un petit peu dans ce cas-là.
C'est assommant ce morceau.
Enfin, ça c'est l'autre volet, c'est la stratégie éducative et professionnelle qui sous-tend la scolarité de Céline après son certificat d'études.
Est-ce que ça veut dire, Jean Roulman, quand on vous entend prononcer le mot de stratégie, qu'on place dans son enfant des désirs d'accomplissement?
Oui, je crois que on a dans le cas de Céline un cas encore tout à fait emblématique. J'avais parlé tout à l'heure de malthusianisme démographique, on se marie tard, et le corollaire, c'est qu'on fait peu, mais mieux d'enfants. C'est-à-dire que on investit dans l'avenir d'un enfant, et comme les moyens ne sont pas non plus immenses, eh bien, on investit dans le parcours d'un seul enfant. On fait des sacrifices.
Moi, je t'ai payé une auto de pompier, des Indiens, des leçons particulières pour le calcul, pour la dictée. Quand on fait pas assez de sacrifices pour toi, non ?
Et d'ailleurs, Céline a conscience de ses sacrifices.
Oui, Ferdinand Céline, dans Mort à Crédit, 1936. Ma mère, son plus grand désir, c'était que je devienne bijoutier. Ça lui semblait très flatteur. Commis soigné, bien vêtu, tirait même à quatre épingles. Et puis, qui maniait des trésors derrière des jolis comptoirs.
De fait, une fois que Louis-Ferdinand Destouches a obtenu à 13 ans son certificat d'études, on va vouloir en faire un acheteur à l'étranger pour des grands magasins. Mais pour ça, il faut pratiquer les langues des deux principales puissances économiques et commerciales en Europe à l'époque, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Raison pour laquelle, donc, dès 1907, Louis-Ferdinand Destouches est envoyé en Allemagne. L'Allemagne, à l'époque, est réputée pour ses méthodes commerciales dynamiques, voire agressives. Il va se frotter à l'allemand et ça semble effectivement un atout tangible dans une Europe continentale qui est dominée par la puissance économique du Second Reich. Il va donc être envoyé à Diepholz en Basse-Saxe, et puis ensuite du côté de Karlsruhe, dans des établissements secondaires.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à ses parents, Diepholz, Allemagne, le 30 août 1907. Hier, après avoir mis ma lettre à la poste, nous sommes allés à l'usine à gaz, puis nous avons fait un grand tour. Et nous sommes passés par la gare. Et enfin, nous sommes rentrés à la maison où Madame Schmidt avait la visite de sa tante à laquelle elle fait éplucher les haricots du jardin. Je suis parti à 10h30, car de 10h30 à 11h30, il y avait répétition de la célèbre fête allemande, la capitulation de Sedan. À laquelle je n'irai pas, naturellement. Votre fils, qui vous embrasse, Louis Destouches.
Et puis après, il est envoyé en Angleterre, à Rochester, près de Londres, et puis à Broadstairs, dans le Kent, où manifestement, il s'est beaucoup plu. Et donc, on a vraiment une stratégie pour cet enfant, sauf que ça ne va pas se passer exactement comme les parents l'espéraient.
Et alors, pour quelle raison, Jean Roulman? Parce qu'on a ici un jeune enfant, fils unique, dans lequel des parents bourgeois placent des aspirations sociales. On lui paye, et ça coûte de l'argent, deux séjours linguistiques en Angleterre, en Allemagne. Et pourtant, ça vacille. Que se passe-t-il dans la vie du jeune adolescent Louis-Ferdinand Céline?
Tout ce qu'on sait, c'est que les appréciations de son travail scolaire ne sont pas vraiment reluisantes. Tous les enseignants auxquels il a eu affaire insistent sur sa paresse endémique.
Appréciation interne du directeur de l'école rue d'Argenteuil. Enfant assez intelligent, mais gâté par la famille. Aussi se croit-il une merveille et est-il vaniteux au-delà du possible ?
Certains sont quand même un peu plus optimistes que d'autres. Bon garçon au travail irrégulier, travail assez bon, tenue convenable.
Travail assez bon, tenue convenable.
D'autres le jugent irrégulier, voire arriéré, nature flasque, peu intelligent et très paresseux. Bref, il prend un chemin, mais vraiment aux antipodes des valeurs de la petite bourgeoisie, où il faut travailler sans compter, et la paresse, c'est un péché capital. Hein, ça fait aucun doute.
Ah ben, puisque c'est comme ça, vous allez filer immédiatement chez monsieur le directeur.
En 1969,
c'est la ligne 4 première.
Michel Polac avait aussi interrogé les voisines du jeune Louis Destouches au début du XXe siècle, dans le passage Choiseul.
Et vous vous souvenez de lui ?
Oh, bah je comprends.
Vous l'avez connu tout jeune ?
Ah oui, bah, il est plus vieux que moi, hein. Il est un peu plus vieux que
et
moi.
Et comment il était quand il était enfant ? Il était un enfant
gentil. Il était insupportable. Les parents, ils en avaient comme ça, hein.
Ah oui, pourquoi ? Il était capricieux.
Oh oui, il était capricieux, puis enfin volontaire, et puis tout ça. Ah, oh, oui, oh, oui. Du reste, il a été au début un très mauvais élève.
Ouais.
Et puis enfin, par la suite, ça s'est arrangé, il a pris l'anglais, l'allemand, et il était représentant, je crois, d'une maison de bijoux de la rue de la Paix.
Après ses séjours en Grande-Bretagne et en Allemagne, il va être lancé comme placier. Placier, c'est vraiment une sorte de courtier, de représentant. Il est lancé comme placier dans les magasins de tissus, les magasins Raymond, ensuite dans la joaillerie. Et notamment chez La Cloche, qui est un établissement réputé à Paris et à Lille. Mais il n'y a pas de résultat probant, comme il le dira plus tard à Albert Parra.
Que faisiez-vous à ce moment-là ?
J'étais garçon de course partout, et livreur et apprenti partout. J'étais chez La Cloche, j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner. Or, j'en ai eu 12 patrons, 12 métiers, 13 misères, on me dit le problème.
Il aura exercé 12 métiers et 13 misères. Le fait est qu'il résout la situation comme l'a fait son père, qui s'est en 1882, devant un parcours dans les assurances plutôt médiocre, s'engage dans l'artillerie pour 5 ans. Eh bien, Louis-Ferdinand Céline, lui, son choix, c'est en 1912, pour couper court à cette déception, pour un peu, je pense, conjurer la perspective de déclassement qui se profile dans le civil, va s'engager brutalement, et pour ça il a eu une sorte de pattern, il a une sorte de modèle, ce qu'a fait son père, il s'engage dans les cuirassiers.
Vous vous êtes engagé par patriotisme, par vocation ou par accident ?
J'avais un certain goût aussi, oui, parce que je suis lyrique, alors un peu con, alors c'était toujours l'histoire de, je voyais ça flamboyant, moi, le cuirassier de Reichshoffen, ça me paraissait quelque chose de très brillant.
Et dès lors, effectivement, cet engagement et surtout la guerre qui va venir va rebattre complètement les cartes, changer la donne et faire sortir son destin de ce à quoi il était destiné en raison de son appartenance sociale.
En conclusion de ce premier épisode, retenez que Louis-Ferdinand Céline fut le fils unique d'une famille typique de la classe moyenne de la Belle Époque. Ni riches, ni pauvres, les Destouches aspirent à une ascension sociale. Ils rêvent de devenir des bourgeois bien installés et ils misent sur leur fils unique pour accomplir en partie leur désir. Mais le jeune Louis Ferdinand a sans doute déçu l'espoir de ses parents.
57 kilos.
Et il se retrouve sous les drapeaux à 18 ans.
Bon pour le service.
Dans le 12e régiment de cuirassiers à Rambouillet.
Suivant.
Alors, à la question... Pour quelle raison Louis Destouches a-t-il devancé l'appel de son service militaire ? Voici la réponse de Marcel Brochard, son ami d'enfance.
Parce qu'il avait envie de foutre le camp, comme il a envie de foutre le camp de partout. C'est là où il s'est engagé pour voir comment ça ferait. En fait, ça a été la guerre.
Comment la Première Guerre mondiale a profondément bouleversé le destin de Louis-Ferdinand Céline ? C'est l'horizon du prochain épisode. Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Reportage, Martine Abbat. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, le maréchal des logis des Touches. Louis-Ferdinand Céline, Le Voyage sans retour, est un podcast original de France Inter.